Bien, reprenons donc notre exploration de Myosormos en continuant par les quartiers centraux. Les quartiers centraux sont situés donc au sommet du rocher corallien dont je vous ai parlé ici et sur les pentes méridionales du rocher donnant sur le lagon. Ces quartiers comportent à l'heure actuelle quatre secteurs qui ont été fouillés, un secteur d'ateliers et d'habitations en arrière du port, c'est-à-dire dans ce secteur-là, un édifice public probablement cultuel au sommet, ici, un vaste entrepôt dans ce secteur et un ensemble appelé Roman Villa par les fouilleurs américains Whitcomb et Johnson. Si les constructions en arrière du port semblent peu ordonnées, celles situées au sommet de la colline le sont beaucoup plus, au point que nous l'avons vu, Whitcomb et Johnson pensaient qu'il y avait une cadastration régulière. Ce n'est probablement pas le cas, mais il faut leur faire crédit d'avoir reconnu une division en îlots séparés par des ruelles qui manifestent toutefois une planification, au moins dans cette partie du site, où l'on peut imaginer que se trouvaient aussi des baraquements militaires qui n'ont toutefois pas été retrouvés. Alors commençons par la zone plus désordonnée, si j'ose dire, celle qui est située le long de la rue, dans le secteur 8 qui est ici, une petite ruelle. C'est ce qui est appelé tranchée 8 par l'Université de Southampton et qui est donc situé immédiatement en amont du port de la tranchée 7, là où je vous ai montré les amphores tout à l'heure. Les fouilleurs anglais ont dégagé une ruelle quelque peu tortueuse qui conduisait au quai. Elle est longée d'ateliers et probablement de logements des artisans qui sont particulièrement nombreux, car cet endroit, évidemment le plus fréquenté, a connu une période d'occupation plus longue que le reste de l'agglomération. L'occupation commence avec des constructions édifiées avant le milieu du 1er siècle de notre ère, peut-être déjà des ateliers. Dans une phase suivante, à la fin du 1er siècle, une série de cases sont édifiées le long de la ruelle, certaines pièces étant destinées au stockage. Puis, dans la première moitié du IIe siècle, qui correspond à une phase très intense d'occupation, on construit une boulangerie qui est située ici, marquée par des meules et deux fours, qui sont construits avec des fonds d'amphore, et une pièce qui est utilisée à côté pour stocker du fumier sec qui aurait servi à alimenter les fours. Car vous savez que dans ce secteur du désert, la végétation est rare et donc on utilisait principalement des déjections animales pour chauffer. Parmi les éléments de destruction de cette phase, outre nos nombreuses amphores égyptiennes 3 et dresselles de 4 de Campanie, des céramiques communes, des faïences, on a aussi trouvé des jarres indiennes et une lampe indienne dont la présence indiquerait que des navigateurs indiens ont vécu là pendant un certain temps. Les bâtiments de cette phase 2 sont détruits dans la seconde moitié du IIe siècle et on assiste ensuite à un dépôt d'une couche de sable éolien qui montre que la zone a été abandonnée pendant un certain temps. Mais ce certain temps peut être assez court. Une couche de sable éolien peut être apportée en une seule tempête de sable. Ensuite, vers la fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle, de nouvelles pièces à base en pierre et élévation en briques crues sont construites au-dessus des niveaux de destruction. Elles sont environnées de dépotoirs qui ont livré d'abondants hameçons, restes de filets de pêcheurs, des arêtes de poissons, des coquillages, de nombreuses vanneries, de cordages, des faïences, des lampes, des gourdes, des amphores, et aussi des jarres venues d'Aksum et d'Inde. Dans la partie nord de la tranchée 8, c'est-à-dire dans ce secteur qui est ici, on a construit au cours de la première moitié du IIIe siècle une habitation de 9 mètres de long, pavée de briques crues et pourvue d'une forge. Les ostracas et papyrus, dont certains sont écrits dans une langue étrangère, des importations d'Aksum et d'Inde, suggèrent qu'à cette époque-là, des commerçants étrangers ont vécu. Ce mobilier final est datable du milieu du IIIe siècle et comprend à cette époque-là des amphores Dressel 20, des amphores gauloises 4, des amphores Dressel 30 de Maurétanie césarienne, des amphores chypriotes, Agora G199, c'est-à-dire en fait le faciès final du fort de Xéron-Pélagos que nous avons vu il y a 15 jours. Il faut rappeler que cette zone sera réoccupée au début du IIIe siècle et sera recouverte donc au Moyen-Âge par une habitation assez large de 8 mètres par 6 en pierre avec élévation de briques crues. Et cette maison d'époque Moyen-Âge, du Moyen-Âge a évidemment perturbé un peu la stratigraphie antérieure, mais est intéressante en soi car elle est occupée à la fin du XIIe siècle et au XIIIe siècle par des marchands qui sont visiblement très à l'aise, et on y a trouvé notamment de nombreuses monnaies et des habits, des chaussures d'enfants. Mais ça sort de notre problématique. Ce qui importe pour nous dans ce cas-là, c'est que nous avons à cet endroit-là du site une phase qui est assez bien datée du milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, et nous verrons que c'est bien le seul endroit où nous avons cette occupation. Passons maintenant à un édifice public qui était la tranchée J19B de l'Université de Chicago, mais qui a été reprise et élargie en tranchée 2B par l'Université de Southampton. Cet ensemble, qui est complètement au sommet du site, à l'ouest de la route actuelle, est particulièrement intéressant car les fouilles anglaises, américaines d'abord et puis complétées par les Anglais, ont dégagé un bâtiment, un mur de pierre taillé, qui sont recouvertes à l'intérieur d'un enduit. Dans les niveaux de destruction de cet édifice, ont été découverts des corniches, certaines peintes en bleu, et des fragments d'enduit portant des lettres grecques. Une colonne, retrouvée écroulée, était stuquée. Le plan montre un bâtiment carré, vous voyez ici, surélevé, divisé en deux, avec une cour au sud et à l'est, et à l'ouest, à l'est et à l'ouest. La construction n'est malheureusement pas bien datée, car le monument repose directement sur le rocher, mais les fouilles anglaises ont démontré qu'il n'était déjà plus entretenu dans la seconde moitié du 1er siècle de notre ère et pendant le 2e siècle. En effet, durant le 2e siècle, le bâtiment fut utilisé pour parquer des animaux et ça a occasionné la formation d'épais dépôts de fumier et qui sont donc compactés sur le sol primitif qui était enduit de blanc. Les particularités architecturales, les corniches, les moulures, la pierre de taille, les lettres peintes, évoquent un sanctuaire. Mais aucun objet votif n'a été trouvé, ce qui exclut qu'il s'agisse d'un sanctuaire païen. Les auteurs de la fouille pensent qu'il pourrait s'agir d'une synagogue. Beaucoup de juifs alexandrins étaient commerçants. Certains ont dû envoyer des parents, des esclaves ou des agents à Myos-Hormos. On doit donc s'attendre a y trouvé une synagogue, de même qu'il y en avait une dans le port franc de Délos à la fin du IIe et au début du Ier siècle avant Jésus-Christ, à côté des très nombreux sanctuaires païens. Une telle hypothèse expliquerait bien que le sanctuaire n'ait aucun objet de culte et qu'il soit abandonné dès le milieu du Ier siècle. En effet, à cette époque, plusieurs conflits violents entre les Juifs et les Alexandrins eurent lieu, par exemple en 38, puis en 66 après Jésus-Christ. Ces conflits provoquèrent des émeutes, des désacralisations de synagogues et forcèrent certains marchands à cesser leurs activités. Ensuite, lors de la révolte juive de 115-117, les Juifs furent écrasés et la grande synagogue d'Alexandrie elle-même fut détruite. Donc c'est une hypothèse séduisante, mais elle manque toutefois d'éléments positifs, car aucun objet juif, aucun ostracon mentionnant des Juifs, ni même un symbole, n'y a été trouvé. Et rien dans l'architecture n'est caractéristique d'une synagogue. Il est vrai qu'à cette époque, c'est-à-dire au 1er siècle de notre ère, les formes architecturales des synagogues ne sont pas fixées et qu'elles varient énormément selon les lieux, ce qui rend leur identification difficile en l'absence d'éléments probants tels que des inscriptions, par exemple. En résumé, il s'agit certainement d'un bâtiment public, très probablement d'un sanctuaire, mais l'hypothèse d'une synagogue, pour séduisante qu'elle soit, n'est fondée sur aucun indice dirimant. Venons-en maintenant à la tranchée 17. Les fouilles de l'Université de Chicago ont dégagé dans ce secteur, qui est donc à côté de la supposée synagogue qui est ici, et ont dégagé donc au sommet de la ville un ensemble de pièces mesurant 7 mètres par 4 environ, qu'ils ont appelé Central Building A et interprété comme un oréum. Les fouilles de l'Université de Southampton ont élargi les dégagements vers le sud, trouvant un angle du bâtiment. Cet édifice est construit en briques crues. Là, ici, une vue de la fouille, mais après la fouille. Cet édifice est construit en briques crues liées au mortier d'argile et il est composé de pièces allongées, assez régulières, comme vous voyez là, et qui semblent ouvrir sur une cour centrale qui serait située ici. Ces pièces ont été trouvées vides, ce qui prouve qu'elles ne servaient pas à l'habitation, elles étaient relativement propres. Et Whitcomb et Johnson pensaient qu'elles ouvraient, donc, comme je le dis, sur une cour intérieure et qu'elles servaient d'entrepôt. Les fouilles de l'Université de Southampton ont trouvé des escaliers qui permettent de proposer que cet ensemble avait un étage et qu'on avait donc un complexe de stockage relativement important. Là encore, le bâtiment est construit directement sur le rocher. L'absence de déchets montre qu'il s'agit donc de salles de stockage et les quelques déchets qui ont été trouvés sont accumulés à l'extérieur et ils sont datables uniquement du 1er siècle de notre ère. L'interprétation des fouilleurs américains me paraît donc confirmée. Il s'agit d'un grand entrepôt, peut-être à cour centrale, où devaient être stockées temporairement les marchandises partant pour l'Arabie ou l'Inde ou en provenant. Le fait que les pièces soient vides est donc normal puisque les marchandises ne faisaient que transiter entre les caravanes et les bateaux et vice-versa. Immédiatement au nord de cet ensemble, en 1978 et 1980, l'équipe de l'Université de Chicago a fouillé un édifice comportant d'autres pièces de stockage. Les fouilleurs l'ont improprement appelé Roman Villa, ce qui évidemment ne peut être le cas puisque une villa est une ferme et que les structures retrouvées n'indiquent pas tellement de fonctions d'habitat, mais surtout à nouveau de stockage. C'est uniquement l'abondant matériel hétéroclite trouvé dans l'édifice qui laisse entrevoir des activités domestiques, notamment la mouture du grain, la consommation du vin, les soins du corps et la cuisine. Donc voici l'endroit où ça se situe. On est proprement dans la partie sommitale du site, juste à côté, comme je vous l'ai dit, du Central Building. Et voici un plan plus rapproché de cette soi-disant Roman Villa. Trois phases ont été identifiées. Une première phase qui correspond à un remblai sur lequel l'édifice est construit, puis une deuxième phase qui correspond à son occupation et son abandon, et enfin une troisième phase marquée par des dépôts de déchets dans les ruines et qui montre donc qu'après l'abandon, alors que le site de Myosormos continue d'être largement occupé, ce secteur de ruines devient un grand dépotoir. Malheureusement, le rapport de fouilles américain ne donne pas de fourchette de datation pour le remblai sous-jacent, et donc la construction de cet ensemble n'est pas bien datée. Alors, vous voyez ici la partie sommitale, le lagon qui était situé ici. C'est une vue qui a été prise par Steve Sidebottom, qui à l'époque participait aux fouilles. Et comme le terrain évidemment s'incline en direction du lagon, il a fallu remblayer une partie pour avoir des sols plans. Mais comme je vous l'ai dit, on ne sait pas ce qui a été trouvé dans ces remblais. En revanche, l'abondant mobilier trouvé dans les pièces de stockage permet de fixer l'abandon de cette Roman villa, entre guillemets, dans le troisième quart du deuxième siècle. On peut donc supposer dans ces conditions que les déchets qui forment le dépotoir qui recouvre les ruines ont été déposés vers la fin du deuxième siècle et au tout début du troisième siècle. Les structures et le mobilier mis au jour mérite un rapide excursus fondé sur les descriptions du rapport de 1980. L'édifice, bordé à l'est par une rue qui était ici, une petite ruelle, comportait en son centre une cour avec une forge et au nord, trois pièces qui ouvraient sur cette cour. Trois pièces qui étaient vides et qui sont interprétées comme des pièces d'habitation, mais qui pourraient très bien être elles aussi des pièces de stockage. Plus sûrement identifiées sont les deux pièces qui sont situées sur le côté, qui elles sont certainement des pièces de stockage. La pièce d'angle, qui est appelée dans les rapports de Small Storeroom, comporte un dispositif particulier, tout à fait intéressant. Vous voyez ici le plan plus détaillé, car au centre, ici, dans une photo que j'avais prise il y a quelques années, se trouve une fosse qui a été creusée dans le rocher, fosse qui était recouverte par un plancher et qui est donc une espèce de cave, ou plutôt de cache, qui mesurait 2 mètres par 1 mètre 40. Une cache car le plancher était recouvert d'une couche d'argile et donc on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait. À l'intérieur, les fouilleurs n'ont absolument rien trouvé, sauf 2 monnaies qui s'étaient infiltrées. En revanche, le sol, donc voici ici la couverture sur une photo ancienne qui recouvrait la cache, et voici donc un détail de la cache elle-même. En revanche, donc tout autour de cette fosse, les fouilleurs américains ont trouvé une assez grande abondance de matériel, de nombreux objets intacts, dont une lampe à 6 becs, qui devait être peut-être utilisée pour regarder ce qu'il y avait dans la cave, une meule rotative pour faire de la farine, 10 huiliers qui contenaient de l'huile d'olive ou de radis peut-être, ou selon les analyses que j'ai pu faire ces dernières années, peut-être de l'huile de benne, 2 gourdes d'assouan, une cruche, un flacon à colle en verre et de nombreux morceaux de bois travaillé. La pièce voisine, donc voici le mobilier qui a été trouvé par les fouilleurs américains tout autour, donc une meule de type olinte, un mortier en pierre, un bol en faïence, un flacon à colle et puis tous ces petits huiliers pour contenir de l'huile et des amphores de divers types, y compris des amphores de silice. Dans la pièce voisine, et qui est au sud, qui est interprétée comme une cour par les fouilleurs, mais qui pourrait être à nouveau un entrepôt, on a trouvé donc divers types d'amphores, dont à nouveau des amphores de silice, des amphores de tripolitaine, des tonnelées venant des oasis, et des huiliers, un panier en vannerie, des poutres, etc. Et enfin, il existait une troisième pièce de stockage près de l'entrée, c'est-à-dire ici, qui, elle aussi, a livré un grand nombre d'amphores, notamment trois amphores à vin de Chypre, des amphores de Tripolitaine et deux urnes de fabrication indienne. Ces objets hétéroclites ont conduit les fouilleurs américains à conclure qu'il s'agissait d'une maison de marchand, probablement saisonnière, abandonnée avec des objets lourds et sans valeur, tels que des amphores ou des huiliers vides, après une saison commerciale. L'hypothèse me paraît probable, mais il faut souligner que les découvertes mobilières ne nous renseignent en rien sur le contenu habituel des pièces de stockage, en particulier de la cave ou de la cache, et on doit imaginer qu'un tel dispositif servait pour des matières précieuses en petite quantité. Alors, s'agissait-il d'encens, de myrrhe, de pierres précieuses ou semi-précieuses, de tissus fins ? On ne saurait le dire, car la cache a été vidée, bien entendu, après la saison commerciale. Quoi qu'il en soit, il faut voir dans cet ensemble, centré sur une cour entourée de pièces de stockage, une structure caractéristique des maisons de commerce qui avaient des succursales à Myos-Hormos. Et je pense qu'il faut donc réhabiliter cet ensemble comme étant une succursale donc de ces maisons de commerce. Alors voyons maintenant ce qui se passe aux marges de la ville en examinant les dépotoirs. Un phénomène intéressant à Myos-Hormos que l'on retrouvera à Bérénice est la gestion des ordures. En effet, il y a certes des dépotoirs dans les rues et dans les bâtiments lorsqu'ils sont abandonnés, mais il y a aussi, et peut-être surtout, des zones de décharge en périphérie nord de la ville. L'abondance et la diversité de ces déchets et l'épaisseur de leur accumulation reflètent d'une part l'intensité des trafics commerciaux et d'autre part une certaine forme de gestion contraignante. En effet, on pourrait imaginer qu'il aurait été plus facile pour les habitants de jeter les détritus dans le lagon, mais cela aurait rapidement aggravé son comblement. Une autorité, et je pense qu'il s'agit de l'armée, devait donc contraindre les résidents du port à jeter leurs ordures dans un endroit déterminé, au moins au 1er et au début du 2e siècle. De la même façon que les curatores des forts de la route de Myos-Hormos prenaient soin d'évacuer les déchets à l'extérieur de l'enceinte afin de garder les casernements propres. Et je vous renvoie à ce que j'ai présenté l'année dernière à propos des forts de Maximianon et de Crocodile. Donc toute la zone au nord de la ville de Myos-Hormos était réservée aux décharges qui étaient contenues par des murs de soutènement afin de ne pas se répandre dans le port. Certains de ces murs de soutènement mesurent une grande longueur. L'un a été dégagé sur plus de 16 mètres de long. Donc vous voyez ici la zone au nord de la ville avec ses accumulations de dépotoirs. Et ces dépotoirs, vous voyez, s'étendent sur une très large surface en bordure nord de la zone urbanisée. Les fouilles effectuées dans les tranchées 6 A et C de l'Université de Southampton montrent que, dès le début du 1er siècle, on jette à cet endroit des détritus provenant de la réparation de bateaux, et on y trouve à nouveau des plaques de plomb, associées à des déchets domestiques, donc des lampes, du verre, des céramiques Eastern Sigillata B, des céramiques sigillées italiques, des meules, des chaussures, des amphores, enfin tout ce qu'on peut trouver dans une décharge. La tranchée 6D, qui est tout au nord, c'est-à-dire vraiment tout à fait au nord du site, montre que le dépotoir s'est étendu là entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle. Là encore, ce sont surtout des objets maritimes en plomb et en fer qui ont été trouvés, mais aussi des filets, des arêtes de poisson, des bols en bois, des verres, des unguentarias, des chaussures, des peignes, etc. Et plus au nord encore, le dépotoir de la tranchée 6P, que vous voyez ici, recouvre un long bâtiment en briques crues daté de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ ou du début du 1er siècle après Jésus-Christ, qui pourrait être un poste de garde établi par l'armée à l'entrée du site et qui est abandonné assez rapidement pour être ensuite recouvert dès la seconde moitié du 1er siècle et au 2e siècle par des déchets qui contiennent beaucoup d'objets qui proviennent de réparations de bateaux, y compris un plomb de sonde, et également qui contiennent des objets provenant d'un sanctuaire, puisqu'on y trouve des statuettes d'Aphrodite, d'Hélios, etc. Et c'est là qu'on a trouvé une quarantaine d'ostracas et 31 papyrus, ce qui a permis donc une meilleure datation. Le dépotoir des tranchées 6G, H et J, qui sont situés au-dessus du port, près des bâtiments de la tranchée 8 que nous avons vu tout à l'heure, sont plus tardifs. Ils datent du milieu du 2e et du début du 3e siècle. Et on voit bien à ce moment-là que l'activité se réduit, la ville est moins occupée et les dépotoirs se rapprochent du centre. Le matériel trouvé dans ces dépotoirs-là comprend à nouveau des plaques de plomb, des plaquettes de cuivre, et donc on a le même faciès qui illustre à la fois une activité de chantier naval, de pêche, puisqu'il y a de nombreux hameçons, et de commerce, et notamment du commerce du vin, qui est illustré par de nombreux bouchons d'amphores. Alors voici une vue de ces, une coupe de ces stratigraphies dans les dépotoirs qui, vous voyez, sont assez difficiles à suivre. Ici, le dépotoir de la tranchée 6G, donc plutôt du milieu du 2e siècle jusqu'au début du 3e siècle. Et ici, donc, quelques exemples d'amphores, de bouchons d'amphores qui sont très nombreux, des bouchons d'amphores en plâtre et en pouzzolane. On en a trouvé de divers types. Je vous renvoie aux publications de David Peacock et Lucie Blue qui les ont étudiées en détail. On y fera une allusion dans la synthèse sur le commerce, mais il faut savoir qu'ils sont extrêmement nombreux. Et bien sûr, donc, toutes sortes de céramiques, toutes sortes de verreries, principalement du 1er siècle et du début du 2e siècle, dont des verres à côtes, des gobelets à des corps meulés, etc. Et ces dépotoirs contiennent aussi beaucoup de matériel organique, notamment des outres et des chaussures en cuir. Ici, vous avez quelques exemples sous forme de dessins et de photos tirées de la publication anglaise. Et également donc tout ce matériel lié à la vie maritime, les hameçons pour la pêche, les plaques de plomb qui revêtaient la coque des navires et les clous qui permettaient de fixer ces plaques. Donc il faut imaginer un énorme mobilier qui comprend un spectre beaucoup plus large que ce que nous avons vu dans les dépotoirs d'efforts, puisque non seulement nous avons, comme dans les dépotoirs d'efforts, des objets fabriqués en Égypte, des objets en matière organique, comme ces vanneries ou ces vases de bois, mais aussi beaucoup d'importations qui viennent d'Arabie, d'Afrique de l'Est et d'Inde. D'Inde, et notamment donc, des jarres indiennes que je n'ai jamais trouvées dans les dépotoirs d'efforts de la route, certaines jarres portant parfois des graffitos. Alors, ces jarres sont assez caractéristiques dans la manière de les fabriquer et parfois elles portent des inscriptions, par exemple celle-ci en tamil brahmi, qui sont évidemment très caractéristiques. Les ostracas qui ont été trouvés sont quelquefois en latin, mais le plus souvent en grec. Et il mentionne non seulement le nom de Myosormos, mais aussi des personnages qui étaient déjà connus par l'archive de Nicanor, vous savez, cette entreprise de chameliers qui était établie à Koptos, et dont on a retrouvé à Koptos une partie des archives. On trouve notamment la mention de Peter Memphis, qui était l'agent de Nicanor à Myosormos, et surtout de Miresis, qui est son fils et son successeur. Donc, à côté de ces ostracas qui montrent les liens avec la vallée, à côté de ces jarres indiennes et de ces jarres d'Arabie qui portent, à côté des jarres indiennes, nous avons les jarres qui viennent d'Arabie, qui portent témoignage direct des relations avec ces deux contrées, et peut-être du séjour d'Indiens et d'Arabes sur place, ce qui donc est confirmé par les graffitis, parfois en langage inconnu, assez souvent en langage sémitique, sur divers pots donc d'origine étrangère. Alors, nous avons donc le spectre de l'occupation du site, de ces dépotoirs qui sont autour, et il nous reste maintenant à déterminer quand Myos Hormos a été abandonné, car ça nous intéresse à double titre, d'une part pour l'histoire du commerce érythréen, et d'autre part pour mieux comprendre l'histoire de la route elle-même de Myos Hormos et des forts qui la jalonnent. Nous avons vu plus haut que cet abandon est probablement et même certainement causé par l'envasement du port qui a progressivement rendu impraticable le lagon aux grands navires qui faisaient le trafic à travers l'océan Indien. On peut toutefois s'interroger sur cette causalité. En effet, l'envasement encore plus important et même le colmatage total de la lagune n'a pas empêché la renaissance du port de Qosr al-Kadim à partir du XIIe siècle et son fonctionnement jusqu'au XVe siècle, dans l'anse résiduelle qui s'était créée à l'entrée du port antique. Il faut donc imaginer et préciser que c'est probablement les grands navires qui faisaient le trajet entre l'Égypte et l'Inde et l'Arabie, et donc il y avait certainement un fort tirant d'eau qui ne pouvait plus mouiller dans le lagon et qui donc rendait, dans les conditions de commerce de l'époque, le port de Myos Hormos inutilisable. Alors qu'à l'époque islamique, on a affaire à des navires nettement plus petits et probablement plus manœuvrants, utilisant la voile latine. Donc c'est probablement cette différence d'accueil de navires qui fait que le port de Myos Hormos devient inutilisable. Il reste à fixer la date de cet abandon. Nous avons vu que les habitants de Myos Hormos ont dû lutter en permanence contre l'envasement par le remblaiement successif des quais qui s'enfonçaient dans le marécage et au IIe siècle par le dragage du chenal dont les déblais ont formé ce que les fouilleurs américains ont appelé l'island au nord du chenal. Tous les sondages et les fouilles de l'université de Southampton montrent une forte occupation de l'agglomération, nous l'avons vu, du début du 1er siècle après Jésus-Christ à la fin du 2e siècle. Vers le début du 3e siècle, beaucoup de secteurs sont abandonnés. Les entrepôts, la zone du bâtiment public, les ateliers de métallurgistes et finalement la seule zone qui reste occupée est le creux de la colline, c'est-à-dire vraiment l'endroit qui était le plus proche du port. Toutefois, comme nous l'avons vu, tous les forts de la route, eux, sont abandonnés vers le début du IIIe siècle. Cette désaffectation me paraît à l'évidence être une mesure administrative. Il paraît clair que le préfet d'Égypte et celui de Bérénice concentrent alors leurs troupes dans les forts de la route de Bérénice. On peut, je crois, en tirer deux conclusions. D'une part, l'administration prend acte du fait que Myos Hormos n'est plus un port assez fréquenté pour justifier une surveillance militaire et un poste de douane, et dans ces conditions, elle a dû retirer le privilège ou l'obligation d'accueillir les bateaux du commerce érythréen, et donc Myos Hormos ne fait plus partie des ports obligés ou désignés. Et d'autre part, le commerce se concentre sur Bérénice et sa route est désormais la seule utilisée par les caravanes. Nous verrons que cette interprétation semble s'opposer à certaines observations de Steve Stibotam qui verrait au contraire une crise à Bérénice dans la seconde moitié du IIe siècle ou au début du IIIe siècle. Mais revenons à Myos Hormos. Nous venons de voir que la zone de la tranchée 8, donc ici, reste la seule occupée. Quelques cases sont encore habitées au cours de la première moitié du IIIe siècle et on construit même une nouvelle habitation dans laquelle, comme je vous l'ai dit, les fouilleurs ont retrouvé des céramiques d'Aksum et d'Inde qui indiquent que le commerce continuait. Si Myos Hormos n'est plus un port obligé avec une présence militaire, et si le lagon est impraticable pour les gros navires, qui sont donc ces derniers occupants? On pourrait penser qu'il s'agit de pêcheurs, mais alors comment expliquer les céramiques indiennes? Si elles ne sont pas résiduelles de la période précédente, ce qui est encore démontré, puisque comme on n'a pas la publication détaillée de la céramique, on ne peut pas en être certain. Donc si elles ne sont pas résiduelles, leur présence impliquerait que des étrangers, notamment des Indiens, résidaient encore sur place une partie de l'année. S'agirait-il de contrebandiers apportant sur de plus petits navires des marchandises échappant au contrôle douanier à Bérénice? On se souvient que la contrebande était endémique sur la côte, nécessitant des patrouilles et des laissez-passer pour les pêcheurs et les caboteurs. Ces derniers occupants pourraient être aussi les témoins d'escales de navires plus petits et plus manœuvrants remontant vers le nord, c'est-à-dire vers l'extrémité du golfe de Suez, vers Clismar et le canal de Trajan. La question est ouverte, mais la discordance d'un demi-siècle entre l'arrêt du contrôle de la route par l'armée et par l'administration fiscale et l'abandon total de Myos Hormos pose une question qui, selon moi, n'a pas été abordée par nos collègues de l'université de Southampton. Alors, ce n'est pas la seule question en suspens. Il y a deux autres questions qui restent en suspens. La première concerne les nécropoles. Et la ville romaine n'a pas de nécropole. Alors que deux cimetières d'époque mamelouque sont connus, l'un probablement à l'est de la tranchée 9 et l'autre qui serait dû à une épidémie sur la plage à l'est du site, aucune tombe d'époque romaine n'a été mise au jour. Il est vraisemblable que les Grecs et les Égyptiens, quelque peu fortunés, donnaient des instructions pour qu'on transporte leurs corps dans la vallée s'il leur arrivait malheur. Cela explique que dans le tarif de Coptos, une ligne soit consacrée pour indiquer la taxe à payer sur les momies, en l'occurrence le pitakion, le ticket, dont le montant est d'ailleurs relativement peu élevé puisqu'il est d'une drachme et 4 obols, nettement moins que par exemple pour passer un mât de navire qui coûte 20 drachmes. Mais à cela, bien sûr, il fallait ajouter certainement les frais de transport, sûrement assez élevés. Il est donc vraisemblable qu'une part notable des résidents temporaires ou permanents de Myos Hormos décédés sur place a été transporté vers la vallée. Mais ça ne peut pas jouer, à mon avis, pour les pauvres ou les esclaves qu'on devait enterrer aux environs du site. Et là aussi, il y a encore du travail à mener à Myos Hormos pour trouver, en plus de l'éventuelle localisation du port ptolémaïque, le cimetière de l'époque romaine. Donc, une question qui reste ouverte. Une autre question qui m'intéresse plus particulièrement est la question des tours à signaux, qui est autrement plus problématique. En effet, comme nous l'avons vu l'année dernière, la route de Myos Hormos est jalonnée de forteresses, mais aussi de tours qui se suivent tout au long de la route. Les forteresses, comme nous l'avons vu, sont construites et occupées au 1er et au 2e siècle, et les tours, par contre, qui sont toutes relativement rapprochées, sont mal datées ou pas datées. La prospection qu'ont fait Sitterkoft et Sidebottom en a compté plus de 65 entre l'oasis de la Keïta et Kosser. Vous voyez ici une carte générale de Meredith qui avait indiqué toutes ces tours à côté donc des forteresses. Là, vous reconnaissez Kusur al-Banat, El Moué, que nous savons être Crocodilo, etc., et donc tout le long des tours. Mais Meredith n'avait pas vu la totalité des tours, et le travail le plus complet a été fait par Sidebottom et Sitterkoft. Donc, ils en ont trouvé 65, et elles sont toutes co-visibles, c'est-à-dire qu'il est toujours possible de voir deux tours depuis une tour centrale. Et du fait du relief, elles sont plus densément réparties dans les zones de montagne, évidemment, pour être co-visibles. Ce sont toutes des tours à plan carré, construites en pierre sèche sur une hauteur d'au moins 3 mètres. Leur partie sommitale, alors voici ici la carte de Sidebottom avec toutes les tours, et ici, quelques exemples de ces tours. Leur partie sommitale est formée d'une plateforme limitée par un petit parapet. Leur mode de construction est absolument identique à celui des forts de la route et il faut probablement, il faut même certainement y voir une construction militaire. L'emplacement et la structure de ces tours montrent qu'il s'agit de tours à signaux sur lesquels les soldats stationnaient pour transmettre rapidement des messages à l'aide de fanions ou de poutres de bois ou de feu. Avant d'aller plus loin dans l'exploration de cette question, je vous renvoie à l'ouvrage de David Woolliscroft qui s'appelle « Roman Military Signaling » paru en 2001 et je voudrais rappeler l'article déjà ancien mais toujours éclairant de René Rébuffat qui s'appelle « Végès et le télégraphe Chappe » paru dans les mélanges de l'École française de Rome en 1978. À la lumière du fonctionnement du télégraphe Chappe, et qui est construit à partir de 1793 et qui est employé jusqu'en 1855, René Rébuffat analyse le texte de Végès, qui est dans, donc, s'appelle l'abrégé d'art militaire, au livre 3, paragraphe 5, lorsque Végès décrit que l'on suspendait des trabets, c'est-à-dire des poutres, au sommet des tours, les plaçant dans les positions convenues. Dans le système de Végès, des poutres, probablement deux ou trois, permettaient de passer des messages lorsqu'une armée était en campagne en changeant leur position. Trois poutres à trois positions permettaient de faire 27 signes, soit par exemple lettres de l'alphabet ou des messages codés. Pour qu'un tel système fonctionne, il faut un appareil à signaux standardisé, et nous avons vu que c'était assez simple, des relais, un code et un service spécialisé. L'absence de toute autre mention dans la littérature antique montre probablement que ce système n'était pas utilisé de façon permanente pour le service de l'État. L'armée en campagne, dans le cas de Végès, profitait des points hauts des villes, des tours qui existaient pour installer des communications optiques de campagne et qui donc étaient provisoires. Dans les périodes de calme et entre les postes permanents, l'information circulait surtout par des lettres, des rapports transportés par des cavaliers et c'est bien ce que nous voyons sur les routes de Mios Hormos et de Bérénice, comme l'a montré Hélène Cuvini, notamment dans la publication des Ostracades Crocodilo. Pour les urgences et les opérations de guerre, l'armée utilisait donc ses tours et des signaux de fumée, comme on peut le voir sur ce bas-relief de la colonne Trajane, tout en bas de la colonne Trajane au moment du départ de l'armée pour la campagne de Dacie. Certains auteurs, comme Donaldson, dans un article paru dans Britannia en 1988, sont très critiques envers cette interprétation de la colonne Trajane, qui, selon eux, montrerait au mieux des signaux d'alerte convenus à l'avance. Pourtant, un tel système de signaux optiques, probablement à l'aide de torches, semble bien avoir installé et été entretenu au cours des IIe et début du IIIe siècle dans certains secteurs du Limes, de Germanie et de Rhétie, notamment dans l'Odenwald, où des tours de bois puis de pierre, qui mesurent environ 4,50 m de côté, sont espacées d'environ 800 mètres en moyenne et sont donc toutes covisibles. Alors, les tours de la route de Mios Hormos étaient-elles destinées à mettre en place un système de communication par signaux? Leur localisation le fait penser. Ce système utilisait-il des poutres? Cela me semble peu probable pour deux raisons. D'une part, il aurait fallu un nombre considérable de poutres. Je rappelle qu'il y a 65 tours qui ont été repérées. Si on met 3 poutres, ça fait 195 poutres. Dans une zone qui est dépourvue de toute végétation. Donc, il aurait fallu importer de grandes quantités de bois. D'autre part, les tours que j'ai examinées, et donc je vous ai donc montré un exemple, en voici un autre, la tour du Bir El Hammam, les tours que j'ai examinées ne montrent jamais de traces d'une fixation d'un bâti de bois. Il est donc vraisemblable que le système était conçu pour fonctionner soit avec des fanions, soit avec des feux, notamment de nuit. L'absence de toute trace de feu au sommet des tours ne me paraît pas dirimante aujourd'hui si l'on fait l'hypothèse, comme nous allons le voir, que le réseau n'a jamais été achevé, ce que montrerait aussi l'absence de mobilier d'utilisation. Et on en vient à la question de la datation précise. Cette question a fait l'objet de nombreux débats et elle n'est pas résolue. Le fait le plus intriguant est que les tours ne sont presque jamais environnées de matériel archéologique. Tout au plus trouve-t-on, dans certains cas, quelques tessons d'amphores égyptiennes très rares et non précisément datables, et dans des tours qui sont situées, par exemple, près de Myos Hormos, où il pourrait s'agir de tessons presque erratiques, si on peut dire. Pour régler cette question chronologique, j'ai fouillé plusieurs de ces tours dans la zone de Crocodilo, puis de Bir al-Mamat. La tour située au nord du Bir al-Mamat, que vous voyez ici, donc le fort est dans le défilé qui est au débouché des carrières, la piste antique passée ici, et la tour est située sur le sommet, immédiatement au-dessus, et vous la voyez ici. Cette tour a donné des résultats intéressants pour une fois, car bien qu'élevée sur un piton, et elle comprend un socle rectangulaire et puis une élévation assez importante conservée sur 2,10 m, et tout l'intérieur est rempli d'un blocage de pierre et d'un remblai qui, assez bizarrement, a été transporté depuis la vallée du Bir al-Mamat, et précisément depuis des bouts de lavage d'or, de la mine d'or du Bir Fawarir qui est située à proximité. C'est ce qui m'a permis de trouver plusieurs tessons de céramique, c'est bien le seul endroit où on en a, dans le remblai, plusieurs tessons dont un bord de faitou en céramique alluviale qui n'est pas très précisément datable, quelques fragments d'amphores égyptiennes 3 et surtout un pied d'assiette en sigillé italique. Nous tenons là donc un terminus post-quem extrêmement ferme. On peut assurer que cette tour est probablement l'ensemble, puisque toutes les constructions sont très homogènes, et postérieure à la première moitié du 1er siècle de notre ère. Donc ça les mettrait, si on suivait ce terminus à la lettre, immédiatement contemporaine des forts de la route, et c'est bien ce que pensent Steve Stibotam et David Peacock, qui pense que ce système des tours a fonctionné en même temps que les praesidias. Personnellement, je ne le pense pas pour les raisons suivantes. D'une part, il n'est jamais fait mention explicitement dans les ostracas trouvés dans les forts, mais je sais que c'est un argument silencieux, donc faible. Il n'en est jamais fait mention, et quand on a quelques textes concernant des scopeloi, ça désigne des postes de guet, mais ça ne semble pas s'appliquer à cet ensemble de tours. D'autre part, et c'est mon argument majeur, comme nous l'avons vu, il n'y a pratiquement jamais de mobilier datant de leur fonctionnement. Or, à l'époque où les forts sont occupés, tout poste de guet est environné de très nombreuses amphores et de gourdes qui contenaient l'eau que buvaient les sentinelles. Comme le réseau part de la Keïta et qui semblait aboutir à Bir Nakhil, où il y a une occupation du début de la période byzantine, Michel Redé et moi-même avons pensé dans notre publication de 2003 qu'il s'agissait d'un système de communication entre les mines d'or, partant de l'oasis de la Keïta, passant par la mine de Bir Fawarir et finissant dans un village minier près de Bir Nakhil. Cette hypothèse doit être rejetée pour deux raisons. D'une part, elle comporte une faute de raisonnement. Si les tours ne sont pas environnées de tessons des 1er et 2e siècles, elles ne le sont pas plus de tessons des 5e et 6e siècles. Or, c'est une époque où, comme on le voit très bien, et comme son nom l'indique, Wadi Fawarir, qui veut dire le Wadi des céramiques, le 5e et le 6e siècle est une époque où on a de très grandes quantités de matériel assez bien datable, et notamment d'amphores Leitroman and Forwan. Donc, c'est une faute de raisonnement et on ne peut pas utiliser cet argument. D'autre part, les prospections de l'Université de Southampton dans l'agglomération de Caban, qui est au nord du Bir Nakhil, ont montré de façon convaincante qu'il ne s'agissait pas, comme l'équipe de l'Université de Chicago l'avait proposé, d'un village de mineurs, mais à peu près certainement d'ermitages chrétiens des 5e et 6e siècles, ou peut-être, notre hypothèse concurrente, en ferait un campement de nomades. Par ailleurs, des tours supplémentaires, notamment à Bir Hambaji, ont fait la liaison avec Myos Hormos, et donc il est à peu près assuré que la chaîne des tours est complète entre la Keïta et Myos Hormos. Donc, reprenons l'ensemble des données. Les tours sont postérieures à la première moitié du 1er siècle. Leur mode de construction est militaire, et donc lié à la présence de l'armée, dont nous savons qu'elles cessent de contrôler la route vers le tout début du IIIe siècle, elles n'ont pas été utilisées, vu qu'il n'y a pas de matériel archéologique autour. Et enfin, le réseau s'arrête à Laquita, ce qui n'a pas de sens si l'on veut transmettre des informations depuis la mer Rouge à la vallée. J'en conclus que nous avons affaire à une ambitieuse entreprise avortée. Les techniques connues de transmission des signaux auraient pu servir à des communications très rapides. Mais, comme nous l'avons vu, le réseau n'a pas été complété et donc il n'a pas pu fonctionner. Préciser mieux la date de cette entreprise avortée est plus incertain, mais je vais le tenter tout de même. Mon hypothèse de départ est que cet investissement arrive trop tard, peu de temps avant que la route ne soit désaffectée et que le port de Myos Hormos cesse d'être un lieu de débarquement obligé des marchandises érythréennes. On se situerait donc vers la fin du IIe ou au début du IIIe siècle. Alors retournons au texte sur Ostraca, présenté en 2003 dans la publication que nous avons faite avec Hélène Cuvigny. Ceux de Crocodilo du début du IIe siècle ne donnent pas d'indications utiles concernant les Scopeloi. Mais il y a un texte qui est codifié sous le nom de Cab 148, trouvé à Koussour-al-Banat et datant des premières années du IIIe siècle, qui me paraît particulièrement intéressant. Dans ce texte, le soldat Hérénus informe son supérieur hiérarchique, qui est probablement le centurion Décimus, qui lui-même est stationné à Koussour-al-Banat. Il l'informe qu'il envoie deux récipients contenant du plâtre ou de la chaux en vue d'une opération qui implique les Scopeloi, c'est-à-dire toute une chaîne de postes de garde, jusqu'à Crocodilo. Quels que soient les travaux à mener, on constate qu'il s'agit d'une opération qui porte sur plusieurs Scopeloi qui pourraient être alors en cours de construction ou bien de réfection. Est-il possible que ces travaux soient justement ceux de l'établissement de la ligne de relais de communication? Une opération d'une telle ampleur pourrait expliquer qu'on ait déplacé un centurion pour commander les travaux, ce qui est un fait exceptionnel dans l'effort du désert oriental. Or, justement, dans ces années charnières, le centurion Décimus est présent à Koussour-al-Banat et commande un détachement. Celui-ci travaillait-il à l'établissement du réseau des tours, qui impliquerait la présence de spécialistes des communications pour choisir les emplacements? C'est justement toute la question. Ce déploiement de force pourrait aussi expliquer la création du fort même de Koussour-al-Banat en tant qu'une des bases pour l'exécution des travaux. Si la date de construction de Koussour-al-Banat est bien 202 après Jésus-Christ, comme nous l'avons vu l'année dernière, on tiendrait là un terminus pour les travaux qui auraient été interrompus très vite à la suite de l'abandon de la plupart des bâtiments de Myos Hormos et à la suite du retrait de l'armée des forts de la route. Un élan aurait donc été brusquement brisé sous Septime Sévère ou sous Caracalla. La toile de fond est bien sûr l'envasement du port de Myos Hormos. Mais dans la mesure où une petite activité continue à Myos Hormos jusqu'au milieu du IIIe siècle, et où, même très réduite, la Marsa a été utilisée comme port à l'époque islamique, il doit y avoir une autre cause plus immédiate. Est-ce l'échec du dragage du chenal? Est-ce une réplique de la peste antonine qui aurait décimé les marchands et les marins du port? On ne sait pas encore, mais il me paraît fortement probable que l'abandon du port désigné et le retrait de l'armée de la route sont liés d'une quelque façon à cette entreprise inachevée du réseau des tours à signaux et que ces événements se passent dans les années 200-210 après Jésus-Christ. Nous verrons dans le prochain cours que le port de Bérénice présente une évolution toute différente qui explique pour partie les vicissitudes du contrôle militaire de la route qui y mène. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le port de Bérénice.